Maupassant, comment on cause? Le monsieur qui fait des visites, qui promène par les salons de 4 à 7 heures son sourire et sa conversation, retrouve infailliblement presque chaque jour les mêmes visages sur les mêmes fauteuils et les mêmes propos dans les mêmes bouches. Il est d'usage de s'aller voir bien qu'on n'ait rien à se dire. Les femmes dans leur salon attendent d'autres femmes et des hommes qui entrent saluent, baisent les mains, prennent un siège, émettent ce qu'on croit être une idée qu'ils ont émise déjà dans la maison précédente et qu'ils émettront encore dans la maison suivante, puis ils se lèvent et vont recommencer ailleurs cette exhibition polie de leur figure et de leur niaiserie. Les gens du monde appartiennent à une race particulière, remarquable surtout par une ignorance universelle et par une admirable facilité à parler de tout avec un air d'esprit. De tout, on parle de tout dans le monde. Les hommes qui n'ont jamais lu que leur journal, appris que leur alphabet est retenu que le Gotha, les femmes vaguement renseignées par les confidences pseudo-scientifiques de savants de salon, jugent, discutent, apprécient, résolvent sans embarras, sans hésitation, sans scrupule, les questions les plus hautes, les plus profondes, les plus inquiétantes, les plus mystérieuses. Rien n'est plus drôle et plus amusant qu'une tournée de visite, une seule tous les 3 mois. Il y a toujours un sujet du moment que tout le monde sait par cœur, car on ne parle que de lui en tout lieu. Deux opinions se sont formées, ou plutôt deux camps, car il est nécessaire qu'il y ait des avis différents. Chaque parti a ses arguments connus et réfutés d'avance, et la bataille s'engage dans chaque maison, de la même manière à chaque renouvellement des visiteurs. Les événements politiques, les pièces et les romans nouveaux, les découvertes scientifiques, les faits mondains de nature scandaleuse sont les aliments les plus ordinaires de la causerie contemporaine. Ce qu'on entend dire sur les événements politiques et les aventures d'amour peut être entendu sans révolte, ces sujets étant dans la portée des intelligences incultes et prétentieuses des mondains plus préoccupés de leur corps que de leur esprit. Mais ce qu'on entend exprimer sur toutes les autres questions devrait faire hurler d'indignation et déprégner de dégoût si la politesse imposait le devoir d'écouter avec un sourire et de répondre avec indifférence. Les scandales limousins et consorts sont épuisés. La souris semble condamnée. On n'est pas d'accord sur la Tosca. Oh, la Terre, décidément, est à l'index. Elle ne s'en porte pas plus mal, mais on continue encore à discuter sur mensonges. Les femmes ont d'abord poussé des clameurs, se sont fâchées, ont déploré la voie dans laquelle Bourget semble s'engager. Mais voilà que dans le monde des lettres qui tient à l'autre par quelques liaisiens, on a déclaré, d'un seul cri et sans hésitation, que c'était là un fort beau livre, de sorte que toutes les belles dames assez maltraitées dans ce roman se sont peu à peu résignées et ont fini par admirer tout à fait, grâce à leur sincérité tournante. Et puis il s'agit d'adultère, ce qui les passionne toujours. Donc on discutait dans un salon plusieurs points intéressants et non encore éclaircis. La mode étant aux indiscrétions et à l'espionnage littéraire, je me permettrai pour une fois d'imiter ses indélicatesses tout en couvrant les noms d'un voile pour donner l'exemple aux autres. 5 heures, les lampes allumées, deux jeunes femmes charmantes causent autour d'une table à jeter avec 3 messieurs fort corrects. Ce sont mesdames A et B, messieurs C, D, E. Et voici ce qu'on disait. Madame A. Ce qu'il y a d'inadmissible, c'est le vieux serviteur qui fait le service du mont à bord. Monsieur C. Quel vieux serviteur. Madame A. Ne vous n'avez pas remarqué cela, vous? Et des hommes se prétendent observateurs. Mais sachez donc, mon cher, que l'appartement où le baron des Folles reçoit Madame Morel est tenu par un domestique mâle. Oh, jamais une femme ne consentirait à cela. Jamais, jamais. Songez donc à tous les détails intimes. Oh non, c'est impossible. Monsieur D. Il me semble pourtant qu'une bonne serait tout aussi gênante. Madame B. Oh non, par exemple. Monsieur C. Affaire d'habitude. Les femmes, paraît-il, sont accoutumées à faillir devant d'autres femmes. Ça ne les embarrasse pas. Tandis que... Madame A. Mais que vous êtes grossier. Vous n'entendez rien, ces choses-là. C'est tout simple, pourtant. N'est-ce pas, ma chère, que vous êtes de mon avis? Madame B. Oh, absolument. Monsieur C. Cependant, permettez, je me fierai bien plus à la discrétion d'un homme qu'à celle d'une femme. Madame A. Il ne s'agit pas de discrétion, mais de tact. Monsieur E. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que le mari ne se doute de rien. Monsieur C. Mais mon cher, nous sommes ici trois hommes mariés qui ne nous doutons de rien non plus. Oh, permettez, dit Monsieur D. J'ai la prétention de n'être pas trompé. Monsieur C. Oh, je suis également convaincu que je ne suis point. Cependant, j'ignore totalement ce que fait ma femme en ce moment. Il en est de même pour la vôtre et pour celle de E, n'est-ce pas vrai? Monsieur E. Oh, la mienne est chez sa couturière. Monsieur D. La mienne chez son médecin. Monsieur C. Vous le croyez? Mais qui vous le prouve? Elles vous l'ont dit, mais vous imaginez, vous, qu'elles vous préviendront de leur visite chez leurs amants? Quand vous demandez à l'heure du dîner « Où avez-vous été aujourd'hui, ma chère ?»« Que voulez-vous qu'elle réponde si elle a passé son après-midi à vous rendre ridicule ?» Elle vous dira donc avec sérénité « Oh, je suis restée 2 heures chez ma couturière ou 3 heures chez mon médecin. Il y avait un monde fou !» Elle vous cite des noms, donne des détails intéressants et précis qui vous amusent, vous font rire. Elle est très gaie, d'ailleurs, ce qui vous met en joie. Vous la trouvez plus charmante que jamais. Monsieur D. Le paradoxe est drôle, mais ne prouve rien. Monsieur C. Mais prenez le cas de Madame Morin et de Vinci, qui est fréquent et admirablement exposé. Une femme voit un homme qui lui plaît, et comme rien n'est plus compromettant que ce qui précède la chute, elle brusque les événements et se donne. Et quel est le mari qui croira sa femme capable de se jeter sans passion préliminaire dans les bras d'un monsieur presque inconnu de lui? Monsieur E. Oh, c'est un cas extrêmement rare. Nous connaissons parfaitement ce qui tourne autour de nos femmes. Monsieur C. Mais jamais, mon cher. Et la preuve évidente, c'est que les maris à revolver sont pris pour des aveugles ou des complaisants, tant leur malheur est notoire jusqu'au moment où ils égorgent les coupables. Madame A, souriant. Oh, il n'y a plus beaucoup de maris briseurs de vitres. Monsieur E. Mais si, moi, si j'étais trompé, je les tuerais l'un et l'autre sans hésiter. Madame A. Oh, on dit cela tant qu'on est sûr de la fidélité de sa femme. Et puis, tenez, j'en ai connu un qui, prévenu par une lettre anonyme, rentre chez lui juste au moment où, enfin, il entend du bruit, voit l'appartement en désordre, et décidé à exterminer le coupable, s'élance, une bougie à la main, vers l'armoire au pied du lit. Elle était vide. Il la referme en criant « Rien dans celle-ci » et passe à la suivante. Elle était vide aussi. Oh, exaspéré, il repousse la porte avec violence en vociférant « Rien dans celle-là ». Il se précipite vers la troisième au coin de la cheminée et il aperçoit dedans un capitaine de dragons debout, son sabre au poing. Alors il la referme plus vite encore et donne deux tours de clé en déclarant d'une voix apaisée: Oui, nulle part, je m'étais trompé. Monsieur sait riant. C'est drôle, c'est une fable. Madame A. Non, mon cher, on est féroce en parole tant qu'on se croit sûr qu'elle est sage. On dit et on pense, oui, on pense sincèrement qu'on tuera sans hésiter. Mais au jour de la découverte, on demeure atterré, hésitant, on pèse les conséquences et on referme l'armoire en disant: Rien nulle part, je m'étais trompé. Madame B. Avez-vous quelquefois songé à ce que deviennent les lettres d'amour? Monsieur C. Oui, on les rend après rupture. Madame B. Mais les autres? Monsieur C. Quels autres? Eh bien, une de mes amies est morte dernièrement, qui devait en avoir beaucoup, et de moins différentes. Eh bien, il est indiscutable que le mari les a trouvées, et il pleure sa femme plus que jamais sur le cœur de ses amis. Monsieur C. Oh, après le décès, on peut être indulgent. Madame A. Moi, je n'ai jamais trompé mon mari, et pourtant, Dieu sait s'il est laid. Madame B. Alors, comment faites-vous, ma chère? Oh, mon Dieu, quand il m'embrasse, je ferme les yeux et je pense à quelque autre.